affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Parler gravure, un art du silence et de l'intériorité dont l'essence même naît de la contrainte pleinement assumée d'un métier souverain, j'ai demandé à un de ces éminents et incontournables représentants les plus accomplis, membre de la section gravure de l'Académie des Beaux-Arts, Éric Desmazières, de venir nous en parler. Bonjour Éric Desmazières.
Bonjour Lydia Rambourg.
Vous avez été élu en 2008 au fauteuil de Jean-Marie Granier. Graveur, aquafortiste, vous comptez à ce jour environ 300 opus en plus de 40 ans. Vous avez créé un monde où la réalité que vous transcrivez avec une précision hallucinante bascule dans l'irréel, l'utopie, ferrée par un imaginaire qui n'en est pas moins dominé. C'est un des paradoxes qui ouvre sur des déambulations labyrinthiques, réelles et rêvées. Des déambulations que j'aimerais transposer dans nos échanges. En premier, parlons technique et dites-nous comment l'on se retrouve avec les outils du graveur dans la main. Il y a bien sûr les maîtres, reconnus, admirés. Et le premier, c'est Abraham Bosch, pour lequel vous avez un infini respect, une grande admiration pour le créateur, pour l'artiste. C'est le premier graveur entré à l'Académie des Beaux-Arts en 1648 et dont le traité de la manière de graver à l'eau-forte et au burin fait autorité auprès de tous les graveurs jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui dit gravure, qui dit dessin? Quelle différence faites-vous entre ces deux approches, ces deux techniques, Éric Desmazières?
Je me permets d'abord, chère Lydia, d'apporter une petite précision. Le premier graveur, en fait, que j'ai rencontré, tout jeune homme dont j'ai découvert l'existence, enfin j'étais déjà un adulte, mais j'étais quand même jeune, c'est Piranèse en fait. Abraham Bosch, j'ai connu plus tard. Et j'avais acheté un livre de un très petit catalogue de Piranèse dans une librairie qui était rue du Bac, une librairie galerie qui devait s'appeler, qui existe toujours d'ailleurs, où il y avait les choses de John Mitchell par exemple. Fréal, ou non, je ne me souviens plus du nom de cette galerie. Enfin bon, bref, j'ai découvert ce monde architectural, les prisons bien sûr, et aussi les vues de Rome et les vues de Paestum et tout l'opus de Piranèse qui lui est gigantesque. Et là j'ai vraiment eu un choc malgré la médiocrité des reproductions de ce petit livre. Abraham Bosch et toute cette gravure française, les calots, enfin toute la gravure française du 17e et 18e, j'ai connu un peu plus tard. Mais le premier choc, ça a été Piranèse, à un moment où d'ailleurs je faisais des études qui n'avaient rien à voir avec l'art, mais je dessinais énormément. Je dessinais, c'était vraiment le dessin. La gravure, je ne connaissais pas, mais je dessinais à la plume, des dessins comme ça, précis, pas exagérément précis, rapide. Je faisais beaucoup de dessins les uns après les autres. J'étais plutôt dans la rapidité que dans la lenteur de la gravure plus tard. Et un ami m'a dit, mais quand même, tu devrais, est-ce que tu as déjà fait de la gravure? Ça ressemble à des gravures, tes dessins. Alors je me suis retrouvé de fil en aiguille à fréquenter un atelier de gravure qui était les cours du soir de la ville de Paris. Où il y avait un professeur qui s'appelait Jean Delpech, un homme qui, vous voyez, qui était né en 1916, qui avait eu le prix de Rome en 1948, qui était buriniste, qui faisait du burin. et qui était le professeur de ce cours du soir, ouvert aux adultes, ouvert au public. Et c'était un cours de bonne qualité, et surtout c'était un homme qui vous mettait en confiance et qui n'imposait pas d'ailleurs le burin. Il était buriniste, mais il n'imposait pas du tout le burin aux jeunes étudiants qui venaient le voir. Et au contraire, il m'a dit, bon, le plus facile, c'est l'eau forte. Vous allez tout de suite prendre un bout de métal, on va le vernir. La technique, c'est ça, vous voyez, vous avez une plaque vernie, vous dessinez sur ce vernis qui enlève et qui met à nu le métal. Ensuite, on met dans un acide qui ronge. Enfin, une espèce d'explication très rapide. Il me dit, on va d'abord voir ce que vous allez comprendre en faisant.
Parce que le geste devait être différent, je pense, le dessin...
Alors, c'est pas tant le dessin qui était différent que quand même...
Le geste lui-même, on était, avec un autre outil.
Ah oui, alors on n'était pas avec une plume, on était avec une pointe d'acier, ce qu'on appelle une pointe sèche. Mmh. Et surtout, on n'est pas avec de l'encre noire sur une feuille blanche, on est devant une chose marron, spécialement
très
inspirante. Alors, en plus, c'était, ça devait faire 10 cm sur 8, enfin c'était vraiment un tout petit bout de rien du tout. Alors je suis un peu pris de court, là je fais mon dessin, une espèce de figure, j'ai gardé quand même, hein, et alors je fais cette figure, ça me prend une heure ou une heure et demie, il me dit voilà, bon maintenant on va mettre ça dans l'acide, un quart d'heure, une demi-heure, bon on met ça dans l'acide, première fois je voyais de l'acide. On sort ça de l'acide, on enlève le vernis, donc je vois mon dessin qui apparaît sur le cuivre, assez horrible, il faut bien le dire. Et puis, on l'imprime. Alors, il m'explique assez vite la technique d'impression, qui est la technique, ce qu'on appelle la taille douce. C'est-à-dire que la taille douce, ça veut dire que ce métal sur lequel on travaille est très mince. Et donc, la taille, enfin la profondeur du trait, est encore plus mince par définition. C'est quelques dizaines de millimètres. Quelques dixièmes de millimètres. Donc on ancre. L'opération consiste d'ailleurs à ancrer la totalité de la plaque et ensuite d'essuyer de manière à ce qu'il n'en reste que dans les creux. On appelle ça la gravure en creux. Ensuite, on passe sous presse et ce sont des presses où il y a une très forte pression. Ça passe entre deux rouleaux, c'est sur un plateau entre deux rouleaux. Et donc cette pression est telle que ce qui est en creux sur le métal vient en relief sur le papier. Donc il y a effectivement cet aspect très différent du dessin. Le dessin, vous dessinez à la plume. Et puis d'une part, il est immédiat, parce que là, c'est...
Il y a des étapes.
Vous avez l'inverse, si vous voulez, c'est à l'envers.
Oui.
Alors d'une part, il y a ça, et d'autre part, il y a le fait que quand on dessine... Par exemple, à la plume, l'encre est bue par le papier, il n'y a pas de relief. Enfin, il peut y avoir du relief, mais c'est quand même plutôt absorbé, c'est plutôt plat. En revanche, la gravure, il y a ce côté en trois dimensions, qui est sensible au doigt d'ailleurs, et qui est très sensible sur certaines gravures. Je ne parle pas des bois, de la gravure sur bois, mais je parle même de la gravure en taille douce. On sent que l'encre, qui est beaucoup moins liquide que l'encre du dessin, vient en relief et ça donne une force à la gravure. Alors, on perd en spontanéité, si vous voulez, puisqu'il y a le passage par le cuivre, par la presse, avant le résultat sur le papier. Mais on gagne en force, et ça m'a tout de suite plu. D'une part, cet aspect m'a plu, l'aspect d'un dessin plus « strong », entre guillemets, et d'autre part, le fait qu'on avait une matrice, et donc qu'on pouvait en tirer X exemplaires. Ça a été les premiers... Bon, alors, le premier résultat était... La première gravure était vraiment pas belle. La deuxième, un tout petit peu mieux. Et puis après, j'ai beaucoup aimé le côté, justement, en plus, un peu... On appuie plus que pour le dessin. Enfin, on est confronté à un matériau différent, le cuivre. J'aime beaucoup attaquer le cuivre, même si je continue à aimer le dessin. Mais disons, j'ai beaucoup aimé la sensation physique de la gravure.
Je pense qu'il y a une énergie qui est quand même différente.
C'est pas de la sculpture, mais c'est un peu dans la direction de la sculpture.
Oui, tout à fait. Donc, déjà, les motifs, ou disons les thèmes qui vont être les vôtres et qui vous définissent tellement, Ils apparaissent déjà, vous parlez d'une première figure. Et
oui, non, mais cette figure était vraiment, parce qu'on me prenait de court comme ça, en plus c'est pas tellement je suis pas du tout un portraitiste, et puis même si j'ai fait quelques portraits, mais avant d'arriver là, chez Jean Delpech, j'avais beaucoup dessiné quand même déjà, et notamment des grands dessins un peu imaginaires, etc., parce qu'il y a eu quand même un laps de temps entre ma découverte de Piranèse et mon arrivée chez Delpech. Découverte de Piranèse qui s'était accompagné d'ailleurs pratiquement dans les mêmes mois de la découverte aussi d'un artiste qui m'a beaucoup marqué à cette époque, qui est Escher, un artiste qui est mort en 1972, et je l'ai connu pratiquement au moment où il mourait. C'était un artiste hollandais qui a connu une très grande renommée après, mais disons par les posters, etc., qui n'est pas, je trouve, considéré comme il devrait l'être. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'exposition Escher dans une institution française, par exemple, alors qu'il y en a eu à l'étranger. Et c'était un excellent graveur. C'était un homme qui a fait de la gravure sur bois, de la manière noire, du burin, enfin. Et puis qui développait un monde comme ça, où la perspective a une grande importance, et où l'espace a une grande importance, comme chez Piranèse. Et donc, ça faisait partie aussi, disons, des sources d'inspiration à cette époque, qui étaient les années 72, 73.
Alors justement, vous parlez des architectures, je pense que dès le départ, du fait même qu'il y ait eu cette attirance pour Piranèse au moment où vous découvrez son travail, ses gravures, il y a effectivement ce côté tout à fait vertigineux, et qui est un des éléments aussi qui caractérise votre gravure.
Alors, j'avais donc déjà beaucoup dessiné, plutôt, oui, beaucoup. C'était beaucoup. Alors, un peu comme le prolongement des dessins d'enfants. Vous savez, les enfants dessinent beaucoup, beaucoup, et plutôt d'imagination. Les enfants dessinent vraiment, transposent la réalité d'une manière très expressive, hein, mais pas réaliste. Et donc, moi, je faisais comme ça, des architectures fantasmagoriques, et puis beaucoup à la plume, et puis j'avais fait des progrès, etc. Et quand j'ai découvert la gravure, mon idée a été de reprendre les dessins pour les diffuser, en fait. J'ai tout de suite aimer cette idée de pouvoir en faire des multiples. Mais alors très très vite, j'ai vu la différence entre le dessin et la gravure. Autant le dessin, on va vite, autant la gravure, on va lentement. Alors évidemment, j'ai vu que ma manière de dessiner, entre guillemets, se transformait du fait que je gravais. C'est-à-dire que la gravure permet plus de détails, et donc j'ai été un peu amené comme ça à faire des œuvres plus élaborées, des images beaucoup plus fouillées, petit à petit, disons. Avec cette possibilité donc de la gravure qui est de faire des états. C'est-à-dire qu'on travaille un cuivre, toujours sur ce vernis, on enlève le vernis, on imprime. On a un résultat et on peut continuer. C'est-à-dire qu'on remet du vernis, c'est un vernis qui est un peu transparent, donc on voit ce qui existe déjà, et on retravaille et on re-enlève le vernis, on imprime à nouveau, donc on peut comme ça
c'est-à-dire qu'à chaque
travailler
fois,
par étapes.
Ce sont des précisions que vous apportez à votre composition, mais peut-être qu'il faut aussi dire que la gravure, elle est quand même un art c'est un exercice qui ne supporte pas le repentir, parce que si vous pouvez
à la limite, c'est plus facile de corriger une gravure qu'un dessin à la plume, parce que on peut gratter, comme on est sur ce cuivre qui est un matériau assez mou, on peut gratter, on peut effacer, c'est long, hein, c'est-à-dire qu'on utilise des grattoirs, des ébarboires, brunissoirs, qui sont des instruments en acier, donc on peut revenir en arrière, c'est pas d'une grande facilité, c'est long, mais c'est beaucoup plus difficile qu'en peinture, bien sûr, ou en sculpture, c'est pas possible, mais il y a quand même une possibilité, d'ailleurs il y a des exemples fameux de gravures de Rembrandt, où on voit des zones qui ont été effacées, ou de Picasso a été, enfin je vais dire une chose un peu, a été un grand gratteur en gravure, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de gravures, et il y a certaines gravures, la Minotauromachie, qui est peut-être son chef-d'œuvre, ça a été, quand on voit les innombrables états qu'il y a eu de la gravure, on voit que ça a été gratté, et certaines images disparaissent complètement. Et Rembrandt, il y a même un exemple, enfin dans la rubrique grattage, on peut citer une chose amusante, c'est que Rembrandt était très admirateur d'un artiste qui s'appelait Hercule Segers, qui était son aîné de quelques années, qui a fait beaucoup de gravures. Et Rembrandt avait racheté un cuivre de Segers qui s'appelait Toby et l'ange, et il l'a gratté en partie pour en faire un autre sujet qui est une fuite en Égypte, mais on aperçoit sous le grattage de Rembrandt l'ombre du Toby de Segers. Oui, donc on peut gratter.
Il y a aussi là deux personnages qu'il a pu récupérer. Alors pour rester avec ce thème de l'architecture, il n'est pas unique, puisqu'il y a toute une série de thèmes qui traversent votre œuvre et qui sont un petit peu comme des étapes sérielles, c'est-à-dire que ce sont des séquences, mais qui se répondent, parce que finalement tout s'enchaîne. Il y a toujours ce monde à la fois microscopique, parce qu'extrêmement détaillé, où vous analysez, mais avec une minutie, vous disséquez vraiment le réel. Et dans ce réel, à un moment donné, il se passe quelque chose qui est justement de l'ordre soit du fantastique, soit de la poésie. Il y a un imaginaire toujours qui est extrêmement prégnant. Et votre univers, je le définirais un petit peu comme celui de la démesure spatiale. Alors, dans cette gravure, dans la gravure que vous réalisez à partir donc d'une plaque de métal, qui est donc limitée dans l'espace elle aussi, puisque c'est un cadre, on va dire, que vous avez devant vous, vous arrivez à insuffler un espace, et dans cet espace, il y a la mise en abîme d'un vide. Et ce vide, alors, il va être vraiment obsessionnel et superbement exprimé dans des séries comme Les Passages, sur lesquels vous avez pas mal travaillé, le passage Vérododa, enfin on y reviendra je pense, les ateliers avec les presses, avec toutes ces machines, je dirais, qui sont tout de même, pour qui ne connaît pas, impressionnantes et mystérieuses. D'abord, elles sont belles à voir avec les roues, avec ces parties horizontales, ces portants, ces grandes verticales. C'est un côté extrêmement mystérieux aussi, déjà en lui-même. Et puis, il y a ces villes avec ces architectures donc réelles, imaginées, les bibliothèques. Alors ça aussi, c'est important chez vous. Et on y reviendra puisqu'il faudra évoquer, bien sûr, la Bibliothèque nationale lorsqu'elle a été réhabilitée, que les magasins ont été déménagés. Vous avez été sur place et vous avez vu là aussi une machinerie, enfin une architecture qui n'était pas soupçonnable quand il y avait encore les livres, puisque là, elle prenait du sens, ses réserves. Et là, elle n'en avait plus, on était dans un vide total. Et puis donc, la tour de Babel, et ça m'évoque aussi cet univers borgésien, je pense, qui est aussi le vôtre, qui est à la fois un univers de la connaissance, un univers de l'esprit, et puis un univers qui toujours nous invite à nous projeter dans d'autres mondes, qui sont peut-être cachés en nous, mais qui déclenchent à chaque fois un fort imaginaire. Alors, reprenons peut-être à partir des passages. Parlez-nous un petit peu aussi de ce lieu assez particulier que vous avez bien fréquenté, bien connu, le magasin de Robert Capia.
Alors, je reprends un peu en amont, c'est-à-dire que effectivement, les débuts, c'était plutôt des choses imaginaires. Et puis le changement est venu sans doute de la fréquentation de l'atelier où je faisais imprimer mes gravures chez René Tazé, un imprimeur en taille douce donc, où j'ai beaucoup séjourné en attendant qu'il imprime les gravures, etc., qui était un lieu très modeste, mais assez beau dans son délabrement même, et dans le cloisonnement. Il y avait une verrière en mauvais état, il y avait des cloisons intérieures vitrées, etc. Et puis il y avait ces belles machines, ces belles presses. Et alors en attendant, comme ça, l'idée est venue progressivement de dessiner cet endroit. Et c'était très nouveau pour moi d'ailleurs de dessiner comme ça des choses d'après la réalité, de manière scrupuleuse. Ça permettait d'assouvir le goût pour l'espace, disons. Donc ça a été un peu le déclencheur, ça a été une source d'inspiration, en tout cas cet atelier qui finalement a été représenté de nombreuses fois. Alors ça, c'est une première chose. Il y a eu aussi le fait de vivre à Paris, de voir Paris. Il se trouve que j'ai habité des endroits, parfois par la fenêtre. J'ai habité le Marais, il y avait une très jolie vue de la fenêtre. Ensuite, j'ai habité plus tard à Montmartre, où là aussi, j'avais une vue sur les toits de Paris. Et puis, j'avais un ami qui habitait vers la place Pigalle. Il y avait une très jolie vue vers Paris, comme ça. Et tout ça a été source d'inspiration. Alors, on peut dire Paris, la ville où j'habite depuis plus de 50 ans. Et ça a été une deuxième source. Et puis, effectivement, le hasard des rencontres, il se trouve qu'il y avait une galerie de gravures qui était installée dans la galerie Vérododa. Je ne connaissais pas du tout cette galerie. Donc, ce marchand qui s'appelait Bijan Alam, qui était un Iranien, qui avait une galerie de peinture et de gravures, galerie Vérododa. Alors, je découvre cet endroit très beau, hein, très... pas gigantesque, mais quand même une très jolie galerie dans le premier arrondissement, et j'ai découvert cette typologie des passages couverts à Paris, qui donc se trouve la plupart, disons, entre le premier, le neuvième, le deuxième arrondissement. Et il m'est venu à l'idée de faire une série, mais alors un peu alors à cheval entre le réel et l'imaginaire, de proposer, mais de manière tout à fait uniquement graphique, des projets d'agrandissement d'un certain nombre de ces passages. Alors ça a été effectivement le déclencheur a été cette galerie Vérododa, dans laquelle j'ai connu plus tard un antiquaire qui s'appelait Robert Capia, et qui c'était pas l'atelier René Tazé, c'était un magasin d'antiquités, mais très un peu pas brocante, mais quand même pas très 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 fouillis.
Parce qu'il n'y avait pas des poupées.
Alors au départ, jouets. C'était un magasin de poupées. Oui, il était. Enfin, sa spécialité, c'était la poupée, les poupées. Mais il y avait beaucoup beaucoup d'autres choses. Et les poupées étaient plutôt dans un placard bien rangé. Elles n'étaient pas tellement en évidence.
Elles n'étaient pas visibles.
Mais il était connu pour ça. Donc ça a été une source d'inspiration, mais plus tardive. Et quant aux bibliothèques, alors en fait, c'est vraiment quelque chose d'extérieur. On m'a demandé un jour d'illustrer un livre pour une société de bibliophiles qui s'appelle Les Amis du Livre Contemporain. Et on m'a demandé de choisir un livre. Et après plusieurs tâtonnements, il fallait se mettre d'accord avec le comité de ces bibliophiles. J'ai proposé un texte magnifique qui est La Bibliothèque de Babel de Borges, qui est un texte que Borges a écrit dans les années 40 et qui est l'évocation d'une bibliothèque imaginaire, évidemment, qui est supposée contenir tous les livres, toutes leurs traductions, etc. Enfin, une espèce de fantaisie fantastique, qui est d'ailleurs un texte absolument pas descriptif. Il n'y a pas de description de la bibliothèque, sinon qu'il y a des salles qui ont 6 côtés, qui a 6 étagères. Enfin, il y a une espèce d'évocation du nombre 6, oui. Mais c'est tout. Donc, c'était vraiment un travail. Il fallait inventer une bibliothèque où le nombre 6 avait une importance. Alors, ça a été vraiment un travail... vraiment, c'était complètement d'imagination, qu'il n'y avait rien dans le texte qui permettait de... Sauf ce côté hexagonal, disons. Et ça a été un peu l'occasion aussi de rendre hommage à... Alors, il y avait Piranèse, et puis aussi des artistes qui m'ont beaucoup frappé, ce sont les architectes visionnaires français de la fin du XVIIIe oui. siècle, les Boulet, les Ledoux, les Lequeux, enfin... Oui. Là, et alors, cette bibliothèque de Babel est un peu aussi une espèce d'évocation de ces grandes architectures utopiques. J'avais fini ça, qu'on m'a dit, mais c'est formidable, seulement, si tu t'intéresses aussi aux choses d'après la réalité, il y a également... Des bibliothèques qui existent, magnifiques, par exemple à Paris, d'ailleurs tout près dans le quartier où il y a des passages couverts, la Bibliothèque nationale ancienne de la rue Richelieu. Et donc j'ai représenté cette salle Labrousse, qui est un chef-d'œuvre de l'architecture, qui est construite à la fin du Second Empire, vers 1865-68,
oui,
et qui est un espace magnifique dans lequel, d'ailleurs, je me suis positionné en biais, ce qui a beaucoup, au lieu d'être de face, qui aurait été beaucoup plus simple, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas assez réfléchi, je me suis mis de biais, ce qui a rendu la représentation très complexe, parce que j'ai voulu faire une grande, grande gravure. Donc j'ai fait cette gravure juste avant que la bibliothèque ne ferme, 1998, pour 20 ans, enfin pratiquement 19 ans de travaux, parce que ça a rouvert l'année dernière. Et j'ai réalisé donc cette salle Labrouste et plus tard, dans les années 2010, Sylvie Aubenas, qui est toujours directrice du département des estampes et de la photographie, m'a demandé, au moment où ça avait fermé, de faire des dessins et éventuellement des gravures de ce qu'on appelle le magasin central des imprimés, qui est la zone où étaient stockés les livres, qui étaient donc disponibles à la lecture dans la salle Labrouste. Une immense zone de stockage qui est dans le prolongement de la salle, qui avait été aussi créée par Labrouste et qui avait été agrandie. Il y avait 6 ou 7 étages du temps de Labrouste et il y en avait 12 au moment de la fermeture. Donc ça avait été agrandi notamment par un architecte qui s'appelait Michel Rouspitz, un très bon architecte, et qui avait donc créé au-dessus et au-dessous de ce magasin central des imprimés, des niveaux supplémentaires, et ce qui donnait à tout ce volume un aspect extraordinairement, alors on peut dire piranésien, on peut dire kafkaïen. Oui, parce qu'il y avait, une espèce de grand vide central avec un éclairage zénital, enfin qui au fil des années était devenu un peu insuffisant. Il y avait naturellement la lumière électrique. Mais c'était... Et donc j'ai pu dessiner dans cet espace alors qu'il avait été vidé de ses livres. Donc c'était très étrange. Hein. J'étais seul, là, assis sur une chaise. C'était un endroit très métallique, d'ailleurs, avec beaucoup pour lutter, pour prévenir le feu. Évidemment, le plus de choses possibles étaient en métal. Il n'y avait en bois que des rayonnages, que les rampes d'escalier. Tout le reste était en métal, avec des claires-voies qui permettaient de voir au-dessus et en dessous. Alors j'ai réalisé une suite de gravures de ce grand magasin central des imprimés avant qu'il ne soit rénové, parce que maintenant l'aspect en a changé d'ailleurs, parce que la rénovation a amené le cloisonnement dans la verticale. Il n'y a plus ce grand vide vertical. Voilà.
Mais ce vide originel, effectivement, qui précède toute création, au fond, ça peut être une métaphore, j'évoquais les métaphores tout à l'heure à partir de vos sujets, mais c'est vrai que ce vide, il est métaphorique. Et puis, il y a ce mystère métaphysique aussi, vous parliez du métal, l'assemblage métal et puis bois. Les escaliers, les coursives, les échelles, tout ça c'est métallique. Et donc ça crée aussi une sorte d'architecture, je dirais presque arachnéenne. Donc il y a ce côté effectivement qui vous renvoie à Piranèse, sans doute intuitivement.
Oui, et qui est d'ailleurs une architecture qu'il est très agréable de représenter de manière précise, justement, parce qu'elle est elle-même très précise. D'ailleurs, Labrouste était un architecte très amoureux de la précision. C'est un architecte qui, pour la salle Labrouste, avait dessiné les détails. Il y a même des ornements autour des boulons. Enfin, c'est très, très moderne de conception et même avant-gardiste, autant la décoration, elle, est assez classique, assez académique comme ça, mais extrêmement précise. Voilà, ça a été une très belle expérience.
Oui, j'imagine. Et alors justement, cette minutie des détails à laquelle vous vous attachez et qui fait qu'on est doublement fasciné parce qu'on identifie et on regarde et on peut parfaitement retrouver une réalité, mais au-delà de cette réalité, et c'est là votre immense talent, mais au-delà du talent, il y a vraiment une disposition vraiment à créer un monde, encore une fois, qui est le vôtre et qu'on ne peut pas du tout confondre avec le monde d'un autre graveur. C'est que ce réel, vous arrivez par sa précision, sa minutie et ce don quand même du trait, de la ligne que vous maîtrisez admirablement, vous arrivez à déstabiliser ce réel et à nous faire douter d'un réel, justement, alors que nous le voyons et que ce réel nous échappe pour nous faire rentrer dans un autre monde qui est sous-jacent, qui est là, prêt à éclore et qui, effectivement, déclenche en nous notre imaginaire. Et nous allons, à ce moment-là, commencer à faire un voyage différent de celui qu'on devrait faire normalement si on était dans ce lieu nous-mêmes. Et c'est vous qui nous donnez cette possibilité. Donc, vous nous donnez une possibilité et vous révélez en nous des possibilités aussi d'imaginaire et de fuite dans un temps qui nous échappe.
Qu'est-ce que je peux ajouter à ça?
Alors, il y a d'autres, justement, il y a d'autres thèmes, et je voudrais qu'on en aborde un aussi. Je ne sais pas si on pourra tous les aborder, parce que c'est d'une grande, grande richesse. Parce que cet inventaire que vous faites avec d'abord les livres, avec la salle Labrouste, et puis ensuite les magasins qui sont vidés des livres, eh bien, tout ça nous amène à un inventaire que vous faites et qui nous ramène encore à la fantasmagorie, à l'étrange, au composite, au grotesque. À la fantasmagorie, ce sont les cabinets de curiosité.
Alors là aussi, c'est, disons, une intervention extérieure. Enfin, je sais pas que je connaissais pas l'existence de ces cabinets de curiosité. J'aimais bien, mais sans les connaître davantage. Et il y a une vingtaine d'années, un libraire qui s'appelle André Jam, qui est un libraire de livres anciens, m'a demandé de réaliser une gravure pour mettre dans les exemplaires de tête d'un catalogue sur les catalogues de cabinets de curiosité. Alors, c'est un magnifique catalogue qui donc recense comme ça des inventaires depuis le XVIe siècle, des inventaires de cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosité ont, disons, sont apparus au XVIe siècle, oui, chez les princes, chez les gens comme ça, fortunés, dans les châteaux, beaucoup en Allemagne d'ailleurs, mais aussi en Italie, en France. Et donc, il m'a donné beaucoup de documentation pour réaliser une gravure devant figurer dans les exemplaires de tête, et j'ai découvert quand même ce monde que je connaissais pas tant que ça, et là, je me suis pris au jeu, et donc, j'ai réalisé une gravure qui, là aussi, m'a donné beaucoup de plaisir que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, qui était ce qu'on appelle, parce qu'il y a un nom un peu générique, qui est le Wunderkammer, disons, chambre des merveilles. Mmh. Et donc j'ai développé aussi cette thématique ensuite à travers un livre c'est un ami qui s'appelle Patrick Moriès, qui est écrivain, essayiste, et qui m'a demandé d'illustrer un livre d'un anglais, un humaniste anglais du première moitié du 17e, qui s'appelle Sir Thomas Brown, qui était un médecin habitant l'est de l'Angleterre, à Norwich, collectionneur, qui avait, paraît-il, un merveilleux jardin. Quand le roi d'Angleterre était venu à Norwich, il avait demandé qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici. On lui avait dit, il faut voir le jardin de Sir Thomas Brown. Mais cet homme du 17e, qui était en correspondance avec plein de monde en Europe, avait écrit un texte qui s'appelle Museum Clausum, qui est très étonnant pour l'époque, parce que c'est la description d'un cabinet imaginaire. Et on voit plutôt ça au XXe siècle qu'au début du XVIIe, et c'est une description extraordinaire, hein, de tableaux, de batailles qui n'ont pas existé, enfin, avec beaucoup d'humour. Et alors, c'est un livre qui n'a jamais été publié en français, d'ailleurs. Cette édition bibliophilique est la première édition en français, qui est la seule à ce jour. Et donc ça m'a permis d'explorer encore plus ce monde des curiosités, qui est proche, il faut dire, du monde des bibliothèques. Hein. Les deux choses, les deux choses se tiennent. Il se trouve que j'ai été amené aussi à réaliser une gravure qui représente le cabinet de curiosité reconstitué de Rembrandt. Rembrandt a été un frénétique collectionneur. Il s'est ruiné d'ailleurs, sa collection a été dispersée, mais elle a été dispersée en vente publique, ce qui fait qu'on a un catalogue de la vente, donc on sait ce qu'il y avait.
Il a été ruiné, il a donc dû se
séparer. Voilà, non seulement de ses collections, mais de sa maison. Mais il existe un catalogue de cette collection. La maison est maintenant le musée de la maison, enfin le musée Rembrandt à Amsterdam, et les conservateurs sont efforcés de reconstituer, enfin c'est une reconstitution imparfaite, mais j'ai représenté ce cabinet reconstitué. Voilà, c'était un nouveau chapitre au plan des cabinets de curiosité.
Alors justement, ces cabinets de curiosité, ils sont tout à fait propices à la fantasmagorie. Et donc, on retrouve là encore la grande rigueur dans la façon de représenter les objets, qu'ils soient réels ou rêvés. On rêve aussi peut-être d'avoir des objets qu'on n'a pas. Donc, c'est ce que vous avez fait, de reconstituer, d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans un cabinet de curiosité et qu'on aimerait avoir. Donc, entre la rigueur du dessin et puis l'évasion qui est toujours là, parce que finalement, c'est toujours l'imaginaire qui est en action et qui vous fait avancer aussi, qui vous donne ce processus de création qui est toujours dans une sorte de geste qui engendre et qui fait que les choses s'enchaînent et se constituent. Et donc, à partir de... vous arrivez à, dans une composition qui est parfaitement maîtrisée. Alors, comment rentre-t-on justement, si ce n'est qu'il doit y avoir un appel peut-être dans la gravure qui permette de nous faire rentrer dans cet espace qui est complètement imaginaire, bien évidemment, puisqu'il est sur deux dimensions. Donc, nous rentrons, il y a peut-être un point focal. Est-ce que vous, ce point focal, vous l'arrêtez au départ ou est-ce qu'il va se... Il va se montrer, il va se révéler à vous au fur et à mesure que vous construisez votre composition. Il y a peut-être un endroit par lequel où chacun peut au contraire rentrer par n'importe quel angle de la gravure où c'est un élément, un détail, où est-ce qu'il y a vraiment l'espace qui nous ménage un endroit par lequel on va pouvoir rentrer dans la gravure.
Alors, que dire ? Si vous parlez de l'élaboration des gravures, en général, il y a beaucoup de dessins.
Il y a vraiment des dessins.
Oui, oui. Et d'ailleurs, ça peut être un dessin très schématique.
Très succinct.
Et puis qui est agrandi, pas au carreau, hein, mais qui est agrandi comme ça et qui s'enrichit
première
de détails. Il peut d'ailleurs y avoir un grand laps de temps entre le dessin et la gravure. Il est arrivé que je fasse un dessin comme ça. C'est arrivé par exemple pour une gravure, alors bien avant la bibliothèque de Babel, j'avais fait des dessins de tours de Babel. Mais je me souviens d'un premier dessin à la plume, d'un deuxième, d'un troisième qui représentait plus ou moins l'intérieur de cette tour de Babel. Et puis tout ça a été oublié. Et un jour, je retrouve ce dessin qui était plein d'imperfections, et c'est justement la présence d'imperfections qui vous amène à dire « Ah ben dans le fond, tiens, j'aime assez l'ambiance générale, mais il y a des choses qui ne vont pas, je vais en faire une gravure. » Alors là, je reprends le dessin, et il y a comme une espèce de mise au propre, on va dire. Et le résultat final, qui est de la gravure, est quand même très très différent
très éloigné du dessin.
Oui, c'est en ça que c'est pas monotone, hein, c'est pas du tout un recopiage d'un dessin existant. Là. Et d'ailleurs, la précision que permet la gravure amène à ce dépassement, disons, par rapport au dessin. Mais il y a plusieurs cas de figure. Pour les passages, par exemple, alors là, c'était... disons que l'idée précédait l'action. Je veux dire, je veux faire une suite des passages, un peu un hommage à Piranèse. Donc j'ai fait beaucoup de dessins des passages. Et ensuite... pour certains, c'est assez rare, je suis parti directement sur le cuivre. Alors, on peut d'ailleurs, sur cette plaque vernie, hein, on peut dessiner à la gouache. Alors, c'est un dessin inversé, hein, c'est un dessin blanc sur un fond foncé, mais ça permet de démarrer directement. Donc, on saute une étape, et comme les passages, c'est une chose imaginaire, peu importe que ça soit à l'envers par rapport à l'idée que vous aviez dessinée. Donc, il y a plusieurs façons de procéder.
Alors j'aimerais que vous nous disiez peut-être quelques mots sur un graveur que je sais être proche aussi de vos admirations, c'est Charles Merion. Parce que Charles Merion, ce qui est très troublant, c'est qu'on en parle souvent comme étant un artiste visionnaire. Et si on regarde sans trop s'attarder à ses gravures, on se dit « mais je ne vois pas ce qu'il y a de particulièrement fantastique ou de singulier dans une gravure qui représente quand même des vues de Paris. » Et on se dit « mais elles sont assez réelles,
fidèles.
Elles représentent bien ce qui était le Paris justement à l'époque, au 19e, enfin à l'époque romantique. » Alors, parlez-nous peut-être un petit peu de ce graveur dont vous êtes, disons, un petit peu dans c'est un peu l'héritage, mais enfin, vous avez encore une fois un monde qui est le vôtre. Alors, je ne voudrais pas laisser entendre que c'est la même histoire. Ce n'est pas la même histoire, mais c'est au niveau de ce petit décalage subtil entre le réel et le fantastique.
Alors, j'espère que ce n'est pas la même histoire, parce qu'il est mort fou, hein, il faut le dire.
C'est vrai. Non.
Mais alors...
Je veux dire la même histoire artistique, hein, thématique.
Oui, oui. Alors, Charles Merion, qui a été un merveilleux graveur de l'époque de Baudelaire,
c'est l'époque de Baudelaire.
Victor Hugo, et qui d'ailleurs, enfin, moi qui m'intéresse aux livres d'artistes, aux livres illustrés, il y a eu un projet de livre sur Paris, texte de Baudelaire, illustration de Mérion,
voilà.
Qui aurait été le plus, qui aurait été un chef-d'œuvre. Malheureusement, le caractère de Mérion a été tel que Baudelaire a fini par baisser les bras et donc ce livre ne s'est pas fait. Mais en revanche, Charles Mérion, effectivement, il y a un paradoxe. Hein, cet homme était, ça a très mal fini. Mais effectivement, ses vues de Paris sont d'une grande précision. Et alors, en plus, il était très méthodique. C'est toujours précédé de dessins extrêmement précis, d'observations. Et les gravures ont en plus une qualité graphique incomparable. Hein, c'est un des grands maîtres, même si les formats sont modestes. Hein.
C'est petit.
Et l'œuvre, pas gigantesque.
Oui,
hein.
Oui,
c'était un marin. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup navigué. Mais c'est surtout Paris qu'il a représenté. Oui. Il a représenté aussi San Francisco.
Ah,
mais c'est son sujet principal, c'est Paris. Il n'y a rien de fantastique,
non.
Sauf une gravure de la place de la Concorde, enfin vue, on va dire, de la rue Royale, où on voit dans le ciel,
des
comme ça,
étranges,
des oiseaux étranges,
oui.
Un peu à la Jérôme Bosch.
Voilà.
Mais à part cette fantaisie, c'est vraiment une observation
minutieuse,
et il est très apprécié des amateurs des gravures par la qualité de la morsure, on va dire, par la qualité du noir et blanc. C'est vraiment un grand artiste du noir et blanc, que je sache, on ne lui connaît pas, il n'y a pas de peinture, on ne connaît de lui que les gravures, enfin, j'espère, je ne pense pas que je me trompe, et les dessins préparatoires aux gravures.
Oui.
C'est un homme, c'est un homme singulier, mais il y a dans la gravure comme ça des artistes un peu en marge. Il y a aussi Rodolphe Bresdin, qui est d'ailleurs son contemporain, un Bordelais qui a réalisé des gravures extrêmement fouillées.
Très foisonnantes.
Très foisonnantes. Alors, elles, plus imaginaires.
Oui, plus portées du côté de la
peinture. Et dont on ne sait pas grand-chose, hein, sinon que ça a été une succession d'échecs. Je crois qu'il est, lui, il est mort, il n'est pas mort fou, il est mort de faim, lui, c'est encore autre chose. Et donc, c'est aussi des gens très, très appréciés, des amateurs, collectionnés dans les plus belles collections. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que Bresdin, qui était un homme vraiment à la marge, avait un grand, grand admirateur qui a énormément collectionné et ses dessins et ses gravures. C'est Robert de Montesquieu, qui est mort sans descendance. Et la collection de Bresdin se retrouve maintenant à l'Art Institute de Chicago, n'est pas en France. Et c'est une œuvre, effectivement, très, très singulière. Comme quelqu'un aussi, comme Gabriel de Saint-Aubin, à la fin du 18e, qui
aussi,
est un artiste. Alors lui, il a fait de la peinture.
Oui.
Mais aussi une œuvre gravée assez limitée, mais de très très grande qualité, une intelligence dans les noirs, dans les blancs, comme ça. C'est vrai que la gravure est un art qui est illustré par des personnalités parfois à la marge, comme
oui,
ça.
Oui, un peu singulières.
Même s'il y a des graveurs, le 17e français, Abraham Bosc, les graveurs de portraitistes, les Morin, les Nanteuil sont des gens tout à fait établis et reconnus d'ailleurs. Israël Sylvestre sont des gens tout à fait. Sébastien Leclerc, sont des artistes très, très reconnus.
Alors, je voudrais quand même, parce que nous arrivons bientôt à la fin de notre entretien, je voudrais quand même qu'on évoque un élément essentiel, et je voudrais prononcer le mot, parce que c'est la lumière. Parce qu'il me semble, puisque la gravure est une gravure en noir et blanc, et que de ce noir et blanc peuvent naître et naissent toutes les nuances de la palette d'un peintre, en quelque sorte. Donc cette lumière, elle est essentielle, elle est très importante. Chez vous, elle est encore une fois prioritaire. C'est elle qui donne aussi ce relief et toutes ces nuances qui font vivre la gravure, qui lui donne sa vitalité, son mouvement, dans une apparence statique, puisqu'en fait, tout est bien calé, bien cadré. Et malgré tout, dans ces architectures extrêmement précises, très détaillées, encore une fois, il y a un mouvement, il y a une circulation, c'est l'air qui circule et qui fait vivre ces architectures. Et ça, je pense que ça vient de la maîtrise de la lumière. Elle est essentielle pour un graveur. Comment vous faites monter la lumière au moment d'abord quand vous gravez et ensuite au moment du tirage?
Oui, c'est... Alors le tirage... Enfin, moi, je n'imprime pas moi-même. Hein, je donne à imprimer mes gravures parce qu'elles sont grandes. Et puis, je ne sais pas, c'est une habitude. Il se trouve que j'ai rencontré très jeune un excellent imprimeur. Et puis, par paresse, un peu, je me suis un peu déchargé sur lui du côté impression. Et donc, ce sont des... les gravures sont tirées de manière très objective. Parce qu'on peut, jouer à l'impression quand même.
Oui,
on peut, puisque l'opération, comme on le disait au début, consiste à mettre de l'encre partout, à essuyer, à ce qu'il n'en reste que dans les creux. Donc on peut plus ou moins essuyer, on dit monotyper le tirage,
oui,
c'est-à-dire
c'est ça, oui.
Faire en sorte que chaque tirage est différent. Moi, je ne pratique pas tellement cette technique qui consiste à faire en sorte que chaque gravure est différente. C'est plutôt dans l'air du temps, cela dit. La tendance contemporaine est de diminuer le nombre d'épreuves et de singulariser les épreuves.
Mais ça veut dire qu'il y a une complicité quand même avec
votre imprimeur. Oui, bien sûr, on assiste
bien sûr
aux essais, etc. Pour ce qui est de la lumière, ben oui, il y a eu des artistes qui ont été... D'abord, pour en revenir à Piranèse, c'est un homme qui a admirablement rendu la lumière en gravure par le jeu des contrastes noir et blanc. Pour en revenir à son œuvre le plus connue, qui est Les Prisons, il est intéressant de noter qu'il a gravé ça très jeune, il avait 25 ans, il a fait cette série de 16 gravures, ou de 14, il y en a eu deux par la suite, gravures comme ça, très jetées, très comme ça, griffées, alors vraiment comme des dessins, hein, mais c'était sur cuivre, et 20 ans après, voyant ça, il a dû trouver que ça manquait de drame, enfin, et donc il a complètement retravaillé les cuivres pour donner une deuxième édition des prisons qui, elle, est beaucoup plus noire et blanc.
Qui est plus noire, hein, c'est ça.
Grâce,
les noirs,
comme il avait toujours les cuivres, il y a cette deuxième édition
dramatique.
Qui a été beaucoup plus imprimée que la première, et donc où il y a une espèce de dramatisation. Et l'autre artiste auquel je pense, c'est Rembrandt, qui était un graveur moderne dans le sens où probablement il imprimait beaucoup lui-même, et ce qui l'intéressait, c'était les états, c'est-à-dire qu'il travaillait, il imprimait, et puis il retravaillait, il imprimait à nouveau, parfois il effaçait, etc. Chaque état était une expérience, c'était pas l'idée d'aller vers un but, c'était l'idée de cheminer au travers des expériences. Et on peut aussi citer Picasso, qui a été un graveur admirable, très 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 aidé par ses imprimeurs, lui, parce qu'il a beaucoup travaillé avec La Courrière et les frères Crommelinck, et qui étaient des imprimeurs très très doués et très capables. Oui. Et donc lui aussi est un homme comme ça qui a trouvé un vrai intérêt plastique dans le noir et blanc, on peut dire, dans la gravure en noir et blanc, dans la gravure.
Nous arrivons à la fin de notre entretien, on parlerait encore très longtemps parce que nous avons appris beaucoup de choses, je pense, pas seulement sur le plan technique, sur le plan historique aussi. C'était important de resituer et de vous resituer. Je trouve que c'est une belle humilité aussi, mais c'est une grande famille, la famille des graveurs. Je voudrais tout de même rappeler que vous avez fait une donation très importante en 2006 au musée Carnavalet, que les graveurs font un dépôt de leurs gravures à la Bibliothèque nationale, c'est ça ? Donc, où voyons-nous vos gravures ? Dans les musées, bien sûr, donc à Carnavalet, qui est en travaux, qui va rouvrir, donc je pense que dans la section moderne, contemporaine, puisque vous avez parlé de l'influence et de votre inspiration de Paris, des toits et puis de ces passages. Donc, effectivement, vos gravures, j'espère, vivement qu'elles seront visibles. Et puis, donc, la Bibliothèque nationale. Et au niveau de vos expositions, dites-nous un petit peu quelle est votre actualité. Les expositions peut-être récemment terminées, qu'on ne peut pas voir, mais il y en a d'autres qui se préparent. Alors, donnez-nous un petit peu un avant-goût de ce que nous allons pouvoir découvrir prochainement, et la galerie aussi dans laquelle vous exposez.
Alors, deux mots d'abord sur les lieux publics. Alors, il y a effectivement Carnavalet, il y a la Bibliothèque nationale, et il se trouve que à l'instigation de Louis-René Berge...
Oui, justement, je voulais qu'on en parle.
Louis-René Berge a créé, on peut dire, a eu l'idée de créer un cabinet d'estampes contemporaines à la bibliothèque de l'Institut.
Voilà. je me permets de préciser que Louis-René Berge était donc à la section gravure, voilà, académicien et qui nous a quittés il y a quelques années. Donc voilà, et vous avez pris sa suite au niveau pour compléter cette collection.
Voilà, alors cette collection,
vous avez repris le flambeau auprès de vos collègues, de vos confrères.
Cette collection est très modeste puisqu'elle est supposée être constituée d'estampes des académiciens. Oui. Mais aussi des académiciens du passé, dans la mesure où on peut peut-être obtenir de leurs descendants, de leurs ayants droit, des dépôts. Aussi des lauréats de prix de gravure de l'Académie des Beaux-Arts, auxquels on demande, sans obligation, mais s'ils ne veulent pas abonder ce fonds. Et il a été aussi, il faut dire, nourri d'une très importante donation de la famille Avati.
Voilà.
Mario Avati était un graveur qui n'était pas membre de l'Académie. Mais sa femme, Hélène Avati, il y a une dizaine d'années, a souhaité, à la mémoire de son mari, créer un prix de gravure, le prix de gravure Mario Avati de l'Académie des Beaux-Arts, qui est un prix très important. Hein. À ma connaissance, le plus important en France, en tout cas, c'est 40 000 dollars, parce qu'elle était américaine, elle. Et donc ce prix, non seulement, est décerné à un artiste de toute nationalité et de tout âge, mais c'est considéré comme un prix quand même de consécration. Il a été attribué 6 fois. La première fois, un artiste s'appelle Jean-Baptiste Sécheret. La deuxième fois, une excellente artiste allemande qui s'appelle Christiane Baumgartner. La troisième fois, Deborah Boxer, une artiste américaine qui vit en France. La quatrième fois, une artiste française qui s'appelle Agathe May, qui travaille le bois. La cinquième fois, une artiste néerlandaise dont l'exposition va ouvrir la semaine prochaine, Wendelin Schoenfeld. Et la sixième fois, le prix vient d'être attribué à un artiste qui travaille le linoléum, mais sur de très très grandes dimensions, qui s'appelle Jan Vitschar, qui est un artiste tchèque. Voilà, et ce prix donc aussi qui donne lieu à une exposition donc à la salle Comtesse de Caen participe aussi de l'enrichissement de ce cabinet alors voilà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la famille Avati a donné des centaines de gravures à l'Institut, qui viennent donc faire un fonds comme ça, dont on espère qu'il va grandir au fil des années.
Ça montre vraiment la vitalité de la gravure et de la gravure toujours aujourd'hui. Et donc la section gravure à laquelle vous appartenez témoigne vraiment d'une attention très très particulière et du désir de vraiment montrer la gravure dans sa grande diversité. C'est ce que nous comprenons avec l'énoncé de ces 6 lauréats du prix Avati donc, depuis sa création. Alors, pour en revenir à Éric Desmazières,
la prochaine exposition sera donc depuis 40 ans, précisément, depuis 1978. Je travaille avec un imprimeur qui s'appelle René Tazé, qu'on a déjà cité, et donc se prépare une publication par une maison d'édition de Milan qui s'appelle 5 Continents, qui est une maison d'édition qui fait beaucoup de livres consacrés à l'art, notamment aux arts primitifs, d'ailleurs aux arts premiers, à la photographie, mais aussi à la gravure. Aussi à la gravure, d'ailleurs, il y a eu plusieurs catalogue récent édité par 5 Continents. Donc ça sera un hommage à René Tazé, ça s'appellera Dans l'atelier, Éric Desmazières, René Tazé, une collaboration artistique, 40 ans de collaboration artistique. Ça donnera lieu à une exposition tout d'abord à la galerie Document 15, qui est une galerie à Paris spécialisée dans la gravure contemporaine.
Rue de l'Échaudé.
Rue 15 rue de l'Échaudé. Et ensuite l'exposition sera sous une forme élargie à l'orangerie de la propriété Caillebotte hier, au mois d'avril, mai-juin 2019.
Alors, tous ces projets nous réjouissent, on est très heureux, et moi je vous remercie beaucoup, Éric Desmazières, d'avoir fait cet entretien avec moi pour un joli dialogue, une belle déambulation oratoire, je dirais, artistique.
C'est moi qui vous remercie beaucoup. Voilà. Merci.